bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, le bouche à oreille reçoit aujourd'hui l'association Le Club du Troisième Âge de Boulard et la mairie de Boulard, représentée par Stéphanie Ramet. Bonjour.
Bonjour.
Alors on commence par la trésorière du Club du Troisième Âge. Nous avons aussi Mélanie Gilles.
Bonjour.
Donc adjointe à la mairie de Boulard.
C'est ça.
Et nous avons monsieur Francis Gognot. On m'a dit que c'était le chef d'orchestre du projet qu'on allait parler de ce soir. Monsieur Gognot, un ancien habitant de Boulard.
Oui, bonjour, ancien habitant de Boulard. Je ne suis pas du tout chef d'orchestre.
Ah, moi, c'est ce qui est marqué sur mon papier. Hein, on m'a dit chef d'orchestre.
On va dire amateur éclairé sur un sujet particulier, la bataille de Boulard.
Très bien. Alors, on va présenter avec qui j'anime cette émission. Donc, Luc à la technique, notre marsouin. Et Jean-Louis, qui va m'aider aujourd'hui à poser des questions, parce que Jean-Louis, il adore l'histoire. Donc, c'est un féru d'histoire, on peut dire.
Oui, féru, c'est peut-être un bien grand mot.
Mais tu tiens quand même.
Oui, ouais. Un petit peu.
Tu connais un petit peu quand même, ouais.
Alors. Voilà. Alors, donc, bonjour à tous déjà, et bonjour à nos invités, à Luc et à toi,
oui.
Fred.
Voilà. Alors, avant qu'on commence cette émission, je tiens à préciser que si vous avez des questions à poser à nos invités, il y a le Facebook de RVM FM, il y a le mail auditeur@rvmfm.com. On transmettra les questions à nos invités. Alors, mesdames, on va commencer par vous. Vous pouvez vous présenter. Qui êtes-vous et pourquoi on va parler de ce projet, bien sûr. Mais on va commencer par vous présenter. Allez, on commence par qui?
Peu importe.
Allez, on y va. Allez, c'est parti pour Mélanie.
C'est ça. Donc, je me présente. Donc, je suis Mélanie Gilles. Je suis adjointe à la mairie de Boulard. Ça ne fera même pas un an que je suis adjointe. Avant, j'étais simple conseillère et en mai l'année dernière, j'ai pris la fonction. Et puis voilà.
Donc, jeune élu alors?
C'est ça.
Parce que je ne vais rien dire, mais il y a quelqu'un qui représente le thème de troisième âge, mais elle est loin d'être du troisième âge. Hein.
Ouais,
elle va peut-être nous donner plus d'indications.
En fait, nos auditeurs, ils sont blousés, ils peuvent rien voir.
Ah là, ils ne peuvent pas voir, mais nous...
On parle de troisième âge, mais effectivement, nos invités sont... loin de ce qu'on imagine être des membres d'un club de troisième âge. Mais ils vont nous expliquer
alors
tout ça.
Alors Stéphanie, allez, présentez-vous.
Alors Stéphanie Ramet, donc moi je suis la trésorière du club du troisième âge et j'habite à Étavigny.
Très bien. Et donc vous avez quel âge?
Je vais avoir 40 ans cette année.
Ah le taquin, voilà. Donc, club du troisième âge. Donc, c'est marrant, ça. Donc, ça veut dire que ça regroupe plusieurs villages, c'est ça ou...
Non. En fait, c'est parce que... c'est un peu une histoire de famille, ce club. La présidente, c'est ma mère. Et en fait, le club existe depuis très longtemps. Et c'était Madame Renée Loin qui s'en occupait à l'époque. Et en fait, elle avait demandé à ma mère de reprendre sa succession s'il lui arrivait quelque chose. Et bon, elle était âgée.
Voilà.
donc, ma mère a accepté en fait ce challenge, a repris l'association et maintenant ça fait plus de 20 ans.
Ah oui, donc c'est quand même une vieille association alors.
Oui, les associations existent
depuis
très longtemps.
C'est pas bien de dire ça,
hein,
comme du troisième âge que vous êtes vieux quand même, c'est pas bien. Hein. Je m'excuse.
Et donc ma mère n'a pas encore le colis du troisième âge non plus.
Eh bien, donc il y a de l'avenir pour cette association alors, ça va?
Oui.
Si les jeunes y suivent, c'est impeccable.
Exactement.
Et donc, on a M. Gognot, Francis. Alors, présentation de Francis.
Alors, moi, je ne veux pas cacher mon âge. Hein. Moi, je ne suis pas la jeunette que vous avez décrit tout à l'heure. Donc, moi, j'ai 71 ans, donc né en 1952. Je ne suis pas né à Boulard, mais dans un tout petit village à côté, dans une habitation. Donc, je ne suis pas né ni à la clinique ni à l'hôpital de Meaux. Je suis né à la Villeneuve-sous-Thury.
Ah oui, d'accord.
Mes grands-parents habitaient là, maternelle, donc je suis né là. Donc jusqu'en 1963, j'ai habité Boulard. Donc toute la famille Gognot habitait Boulard. Mmh. Hein, mon père avait un frère, il avait bien sûr un père, donc mon grand-père, Marcel, qui était entrepreneur à Boulard, le seul entrepreneur de Boulard qui existait. Et voilà, j'ai passé 11 ans magnifiques, et puis on a toujours le mal du pays. on a toujours du plaisir à revenir dans le village. Et ben là, c'est vraiment l'occasion d'y revenir. Ça fait 2 ans qu'on travaille un sujet avec mes collègues qui sont là aujourd'hui. Et on a préparé quelque chose de, je dirais, sensationnel. On en parlera plus tard, je pense.
Oui, on va en parler. Juste pour dire, Gognou, le maire de Boulard, il s'appelle M. Gognou, c'est ça. Donc vous êtes une famille qui est depuis très longtemps sur Boulard, alors.
Oui, on y est depuis très longtemps. Mon grand-père, lui, était entrepreneur. Mon grand-père est né en 1895. Ma grand-mère, en 1902. Elle s'est mariée, elle avait 18 ans, donc en 1920. Donc depuis 1920, mon grand-père a habité Boulard.
Voilà, donc c'est ce qui explique... Pourquoi il y a cette empreinte Gognou sur Boulard, alors.
Un enracinement très profond.
Voilà, c'est ça. On peut situer Boulard pour les auditeurs. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Boulard. Vous pouvez nous présenter votre village ?
Oui, donc c'est un petit village situé à côté de Rouvres-en-Mulcien, qui est aussi petit, donc bon, à côté de Baie.
Voilà.
À une petite vingtaine de minutes de Crépy.
Voilà, donc c'est dans l'ancien canton de Baie, puisque maintenant c'est le canton de Nanteuil-le-Audouin. Et vous êtes vraiment limitrophe avec la Seine-et-Marne, c'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Vous êtes vraiment au bout du département, quoi. Voilà, comme ça on a fait un peu connaissance avec le village. Alors, on va rentrer dans l'événement, parce qu'on se voit, parce qu'il y a un événement qui se prépare le 29 et 30 avril. Donc on peut dire que c'est très vite, on y arrive très très vite. Et c'est un très gros événement. Hein. Donc on va peut-être rentrer dans comment il est né ce projet. Vous pouvez nous dire comment vous avez pris contact ensemble et puis pourquoi cet événement. Qui veut commencer ?
Oh, donc je vais commencer. Donc c'est tout simple au départ. La jeunesse, c'est quoi ? Un monsieur qui s'appelle Maurice Redoutet, qui écrit à la mairie de Boulard et qui dit « Bonjour monsieur le maire ». Je voudrais connaître l'endroit où mon père a été blessé le 12 juin 1940 et où il a failli mourir. Mon cousin, le maire du village, m'appelle en me disant « Écoute, c'est pas trop ma tasse de thé, moi, la guerre, tout ça. Toi, je sais que t'aimes bien la généalogie, tu fais des recherches. Est-ce que tu veux t'en occuper ?» Donc, d'une manière immédiate, on a pris contact avec lui. Et puis, on l'a reçu, bien sûr, mais dans la semaine qui suivait, avec un de mes frères, Didier, qui habite Crépy-en-Valois d'ailleurs, on l'a reçu tout à fait simplement, mais il a dû être impressionné, je dirais, par déjà le savoir-faire qu'on avait fait pour le recevoir lui, et en plus les connaissances qu'on avait sur la guerre. Donc on est parti dans une recherche, de son côté lui, et moi de mon côté. Hein, donc on connaît bien tous les deux le SHD, le Service Historique de la Défense, au château de Vincennes, hein, dans l'aile du Roi. C'est là où on trouve, c'est la mine d'or en définitive pour les chercheurs qui veulent savoir et connaître ce qui s'est passé à un moment historique.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est la genèse du projet. Hein. Donc après, on de fil en aiguille, on fait des recherches, hein, et on attire des gens. Hein, mes collègues qui sont là ont fait venir, parce que Mélanie a créé un petit club qui s'appelle le Club Histoire de Boulard, dans lequel il y a une spécificité, il est réservé aux enfants et aux adultes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait nos réunions, on fait le point d'une manière tout à fait régulière. En ce moment, très souvent, parce que j'allais pas dire tous les soirs, mais toutes les semaines. Mais en même temps, il y a les enfants également qui font la petite réunion Club Histoire et qui préparent également. Tout le monde est sur le pont à Boulard.
D'accord. Mais alors, pourquoi on n'a jamais eu connaissance de cet événement ? Parce que c'est quand même incroyable que c'est resté anonyme pendant des années et des années, quoi.
Déjà, si vous avez vu 1940, c'est une année néfaste. D'accord ? C'est une année, je dirais pas honteuse, mais un petit peu, les gens avaient ce sentiment-là. C'est l'année de la débâcle, c'est l'année de la défaite. Hein, donc personne se vante de cette année. Hein, on se rappelle de la guerre, on se rappelle de la victoire, on se rappelle d'avoir poussé les Allemands, mais de 1940, on ne veut pas trop en entendre parler. Donc ça, c'est la raison. Et deuxièmement, il faut se dire une chose, c'est que les 11 et 12 juin 1940, c'est vrai, il n'y avait pas fou, la Boulard. C'est qui restait ? Il ne restait personne. Il n'y avait personne, c'était l'exode. Oui. Les gens de Boulard sont partis le 9 juin 1940, ils sont revenus le 20. Donc ce qui s'est passé le 11 et le 12, personne n'est au courant.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de traces qui sont restées de cet événement, quoi.
Et je vous dis, les gens n'en parlent pas. Mon père était directement concerné. Il a été blessé à Boulard en tant que jeune résistant. Hein, il a pris une balle dans le bras par un SS. Il s'est engagé en 1944 pour la durée de la guerre, plus 3 mois, comme les jeunes gens faisaient, parce qu'il avait enfin 18 ans, donc il pouvait le faire. Mais jamais il m'en a parlé. J'ai deux frères qui étaient plus âgés que moi, un qui est né en 50 et un autre en 48. Ils n'étaient pas au courant non plus. Personne au village n'était au courant. Donc c'est un petit peu, je dirais, pourquoi on n'en a jamais parlé, quoi.
Voilà, enfin, on saute peut-être un moment, là, je crois, parce qu'on est passé du chasseur redouté qui avait été blessé à Boulard, et le fils cherchait donc savoir où, comment, etc. Mais c'est en partant de là que vous avez découvert autre chose.
On a découvert qu'en définitive, on se dit, il y a un gars qui a été blessé. Bon. C'est embêtant pour lui. Donc on essaie de comprendre. On dit, mais il y a peut-être eu des morts. On va à la mairie. On regarde l'état civil. Année 1940, pas de mort. C'est quand même bizarre, ça. Et puis, je ne sais plus lequel d'entre nous continue à regarder 1941. Alors là, l'hécatombe. 33 actes de décès. 33. Le plus jeune, Paganelli, 19 ans. Attendez, moi, à chaque fois que je dis l'âge de ce gars-là, ça me fait peur. Ça me fait drôle. Ça me fait vibrer. Parce que à 19 ans, on ne peut pas mourir quand même. Et le plus âgé devait avoir 34 ans. Hein, donc ce jour-là, on découvre ça. Et donc là, forcément, on est obligé de continuer. Je dirais, on ne peut pas s'arrêter comme ça, en se disant, il y a eu 33 morts, et puis pas ça, ça va bien. Non, immédiatement, tout le monde a dit, on va commémorer. Un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, il faut que ces gens-là, on les sorte de l'oubli complètement. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est impossible à faire. Et après, bon, y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on parle là de Maurice Redouté. Je vais vous donner un autre nom. Quelqu'un qui était aussi directement concerné, qui s'appelle M. François Carry. François Carry, son père n'était pas là. C'est son grand-père qui était là. Son grand-père, c'était le chef de bataillon Henri Lefebvre. Chef de bataillon, c'est le responsable, je dirais, de la sommité, l'officier supérieur, en définitive, du bataillon. À savoir qu'un bataillon, par exemple, le 66e bataillon de chasseurs à pied qui commandait, avait 908 hommes. Hein? À savoir que dans la région de Boulard, c'était la 57e division. La 57e division, vous aviez presque 16 000 hommes. Elle partait de Neuchâtel, ça passait par Boulard, Antilly-Baix, ça remontait sur... ça allait jusqu'à Alvigny, on va dire. Alors, par extension, on avait besoin d'eux. Ils sont même venus ici, à Crépy. Et ça a été un drame, à Crépy. Parce qu'à Crépy, il y a eu aussi beaucoup de morts. Il n'y en a pas eu 33. De mémoire, je vous dirais, il y en a eu 25 à peu près. Hein, mais je l'ai un peu plus loin sur mon ordinateur, je pourrais vous le dire. Mais et une nuit terrible, la nuit du 10 au 11 juin. Il y avait le 235e régiment d'infanterie qui était là, les 4 sections qui étaient là, et bombardés par les Allemands, les avions, l'artillerie, beaucoup de dégâts et beaucoup de morts. Hein, donc, et beaucoup de blessés, parce qu'on parle toujours des morts, mais il faut savoir que c'est un petit peu comme la guerre actuellement qu'on vit en Europe. Quand vous avez un mort, vous avez minimum 3 blessés.
Hein, donc, ouais, c'est ça, il y a marqué plus de 200 blessés, là, c'est ça, hein.
Oui.
Et plusieurs centaines de prisonniers. Donc,
ah oui, plusieurs centaines.
C'est une catastrophe.
Ah, oui, complètement. Mais c'est-à-dire que ces jeunes, parce que c'était tous des jeunes, hein, quand vous lisez, vous allez dans les services d'archives, vous scannez les documents, le général Texier, qui commandait cette division, le Capdeville, le chef de la demi-brigade, qui regroupait les 3 bataillons de chasseurs, quand vous lisez ce qu'ils écrivent, c'était des gosses, hein, c'était des gamins. Ces gens-là n'étaient pas préparés à la guerre.
Oui, ils n'avaient pas donné d'expérience assez...
Non, du tout. Ils n'avaient jamais tiré sur un être humain. Ils n'avaient jamais dirigé un fusil mitrailleur. Ils s'étaient entraînés, en définitive, en Alsace, et dans le Doubs et dans le Jura, au camp de Valdaon. Mais bon, ils n'avaient pas... Par contre, en face d'eux, ils avaient qui? La 98e division allemande et la 62e. Attendez. Et j'allais dire des bêtes. Non, faut pas déconner. C'est pas des bêtes. Mais bon, ils étaient roués au combat. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà fait la campagne de Pologne. Ils sortaient pas du camp de la caserne.
Et donc, ils avaient un avantage déjà psychologique et tout ça.
C'est sûr. Non, non, mais là, il s'est passé des choses. Bon, on ne va pas parler non plus que de choses dramatiques, mais on parlera après de l'événement, parce que l'événement, c'est aussi pour nous, on vous remercie de nous recevoir, parce que pour nous, c'est un moyen de transmission, je dirais de l'information. On est bien contents. On espère que cette émission va enjouer les gens et les faire venir chez nous, le 29 et le 30. Et Mélanie, tout à l'heure, on parlera du programme, parce que ça, c'est intéressant. Mais bon...
Oui. Justement, Mélanie, vous êtes à la mairie de Boulard. Quand vous avez reçu ces infos, alors, vous avez dit tout de suite, il faut qu'on crée un groupe de travail, il faut qu'on travaille dessus sur cet événement.
Oui, je pense que ça a tout de suite été une évidence qu'il fallait en parler. C'était, oui, primordial. Après, c'est vrai qu'au début, on s'est vachement enflammé. On s'est dit, on va faire ça super rapidement. On voulait faire ça l'année dernière. Bah, après, on s'est bien rendu compte que organiser quelque chose comme ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
Oui, puis il y a des recherches historiques qui étaient à faire aussi. Voilà, donc, pour c'est être ça. Sûr qu'il y ait bien eu un événement. Quoi, ouais.
Voilà, donc on s'est dit, 2 ans pour préparer, c'est bien.
Et comment vous avez pris contact, du coup, avec Francis, alors?
Ben, c'est Joël, donc monsieur le maire, qui...
Ah oui, d'accord, voilà. c'est la famille, c'est les c'est réseaux ça. Familiaux là, qu'on fait les
nécessaires. Il savait que Francis, il aimait bien tout ce qui est historique.
Oui.
Et donc, il s'est chargé de mener les recherches.
Voilà. Et donc, Stéphanie, vous avez été contactée par la mairie de Boulard, alors? Comment ça s'est passé pour que vous soyez dans le projet?
C'est parce que je fais partie du club Histoire, également. Oui. Donc,
tout de suite, ça vous a rapproché
c'est
pour...
C'est ça, ouais. Oui, parce qu'en fait, le club Histoire, il y a eu aussi une conférence qui avait été faite avec monsieur Amelino, c'est ça?
Amelino.
Oui. Amelino, pardon. Et ça, c'était l'entre-deux, parce que bon, ça faisait partie aussi du projet de la guerre, hein, d'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé aussi. Mélanie pourra expliquer un petit peu plus longuement de quoi il s'agissait, mais. Mais oui, en étant au club Histoire, ça fait que oui, on s'est dit non. En fait, c'est vrai que personne n'avait connaissance en fait de cette bataille dans le village. Et c'est vrai que quand on en a parlé, on s'est dit personne ne le sait. Et effectivement, on s'est dit oui, il faut en faire quelque chose de ce sujet.
Et donc le club Histoire est né à ce moment-là ou il était né avant?
Non, ça est vraiment né à partir de ce projet.
Oui.
Et puis pourquoi le club du troisième âge? Faut être honnête, pour organiser un tel événement, faut passer par une association. Le club du troisième âge, c'est la seule association du village.
Très bien.
Donc
voilà,
forcément,
c'est bien précisé,
on s'est tourné vers eux pour pouvoir faire des demandes de subventions, etc.
Et donc là, le travail de recherche a commencé là, à cet instant-là. Et donc là, Francis, c'est un boulot conséquent, quoi.
Oui, c'est un boulot de tous les jours.
Ça
tombe bien, je suis en retraite. Hein, donc ça ne m'a pas beaucoup dérangé. Bon, ça peut-être
donc, vous avez votre carte du club du troisième âge, alors vous êtes membre?
Non, je suis pas.
Pas du village.
Je ne suis pas accepté, trop jeune.
D'accord.
Non, mais bon, c'est vrai que ça a été un travail énorme, hein, mais que j'ai fait avec plaisir et que je continue à faire. Parce que là, on n'est plus au stade des recherches, on est au stade de la promotion du produit, pas du produit, mais de l'événement. Donc, ça demande également beaucoup de ressources. Il faut avoir du temps quand même. Hein, oui. Contacter les journaux, contacter les radios, contacter les télévisions. Écrire, à tous les gens qui peuvent éventuellement venir. Hein, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont venir. On a un général qui va venir. On en parlera tout à l'heure. Mmh. On a une fanfare qui va venir. On en parlera tout à l'heure avec une vingtaine de musiciens. On a un détachement militaire qui va venir de SUIP.
Vous allez avoir un corps militaire, ouais, c'est ça?
Non, on va avoir des artilleurs. Donc c'est des vrais soldats en armes.
Ah oui.
Un 40e régiment d'artillerie qui va venir à Boulard le dimanche, donc à la commémoration toute officielle qui est le matin, hein, qui va commencer à 9h30 par un défilé. Donc la fanfare derrière ou avant, je ne sais pas trop comment c'est exactement.
Donc là, c'est-à-dire que tout le travail de contact qui a dû être fait avant, c'est un truc énorme. Quoi, toute la logistique à mettre en place, oui.
Et ça continue encore, parce qu'il faut un cérémonial. Le cérémonial, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Honnêtement, je suis pas capable de faire ça. Mais non, tout à l'heure, je vous ai parlé de François Carry. François Carry, le petit-fils du commandant Lefebvre. En même temps, on a un coup de peau terrible. Ce monsieur, ce François Carry, il est commissaire de la Flamme. Commissaire de la Flamme à l'Arc de Triomphe. Donc les cérémonies, il connaît. Et il connaît du monde qui connaît les cérémonies aussi. Hein, donc ce monsieur, il nous a fait venir le général Paul Moreau, vice-président de la Flamme, quand même. Un président de l'épaulette. il nous a fait venir le relais sacré.
Oui.
Hein, je ne sais pas s'il faut qu'on parle tout de suite de l'événement ou qu'on parle plutôt des recherches, je ne sais pas trop.
Ben, on continue les recherches, l'événement, on va y venir après, comme ça on finira en beauté, quoi. Ça sera le voilà. Feu d'artifice de l'émission.
Oui, donc on a commencé en 1939, c'était la drôle de guerre, hein, la drôle de guerre qui a duré jusqu'au 10 mai 40. Pourquoi le 10 mai 40? Parce que ça a été la date du début de l'offensive allemande, hein, par les Pays-Bas. Hein, ça, c'est la drôle de guerre. Mais après la drôle de guerre, il y a eu quoi? Après la drôle de guerre, il y a eu la bataille de France. La bataille de France, ce sont les Allemands donc, qui envahissent les Pays-Bas et qui arrivent en France, qui arrivent chez nous. Ils vont très vite. Ils passent par les Ardennes, hein, mais on va dire par toute la région nord, parce qu'il n'y a pas que les Ardennes. Hein. Ils enfoncent tout sur leur passage, mais vraiment tout. Et ils arrivent très rapidement. Bon, ils commencent à chasser les Français et les Anglais qui étaient dans le nord de la France. Ils les emmènent vers Dunkerque, hein, la poche de Dunkerque, on sait ce que c'est. Hein, faut se sauver, faut s'en aller. Hein, heureusement, et après ils redescendent vers chez nous. Et ils arrivent sur Boulard les 11 et 12 juin 40. Quand je dis sur Boulard, ils arrivent sur l'Oise. Hein, parce que je vous disais tout à l'heure, il y avait 16 000 hommes, grosso modo, la 57e division qui était là, qui se décompose en deux régiments d'infanterie, le 260e régiment d'infanterie et le 235e. D'ailleurs, c'est le 235e qui était sur Crépy-Lévignan. Après, vous aviez, en redescendant sur Baie, vous aviez le 26e bataillon de chasseurs à pied, qui faisait partie de la 8e demi-brigade. Vous aviez après le 66e bataillon de chasseurs à pied. Et vous aviez, on va dire, planqué, normalement, eux ne devaient pas intervenir, à Villers-Saint-Genest, le 68e bataillon de chasseurs alpins. Mais quand on dit ne devaient pas intervenir, ne devaient pas intervenir, mais ils sont intervenus, les pauvres. Et eux, ils ont eu également beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont intervenus sur Boulard. Mais il y a quand même eu 8 et 6, 14 morts. Rien que chez les chasseurs. Hein, je rappelle le chiffre global des morts, 33. Et donc ça, c'était la 8e de brigade qui était commandée par M. Capdeville, le lieutenant-colonel. On avait également le 260e régiment d'infanterie qui a eu beaucoup de morts. On en parlera un peu après. Les morts, parce que c'est les Allemands qui les ont tués. Mais un problème, je dirais, de direction de régiment. Quand on fouille bien les choses, c'est tout à fait clair. Et on avait également le 62e GRDI, le groupe de reconnaissance. Un groupe de reconnaissance, c'est tout simple, c'est quoi? Ce sont des espions. Mais ils ne sont pas en voiture américaine à l'époque, non. Hein. Vous avez des escadrons de moto. Ils se déplacent en moto parce qu'il faut aller vite. Ils vont espionner, ils vont regarder, ils regardent comment ça se passe, où sont les pièces d'artillerie, comment on va faire. Et vous avez également des escadrons à chevaux. Parce que le cheval, c'est quelque chose de terrible. Le cheval, à l'époque, imaginez un petit peu. Alors, on continue un petit peu la partie historique. Oui. Tous ces régiments venaient de l'Est de la France. Du Doubs, du Jura et d'Alsace. Alors, ben, pour venir, on ne va pas venir à pied. On ne va pas venir tirer par les chevaux non plus. Donc, on prend le train. Hein, des trains, à l'époque, il y en avait partout. Il y avait des gares partout. Ben, pour venir, 16 000 hommes, 10 trains. Ben non. 20 trains, non. 30 trains, non. 50 trains, non. 66 trains. 66 trains, mais c'est un petit peu logique.
Oui, 16 000 hommes, il faut les transporter. Oui.
Non, mais ça, c'est rien. 6 000 chevaux. Ça occupe de la place, ces chevaux. Les pièces d'artillerie. Donc partout dans la région, il y a des trains qui sont arrivés. Il y en a même un qui est arrivé à Baie. Hein, c'est vrai, c'était la 8e, non, c'était la 7e batterie du 47e régiment d'artillerie. Alors, pour vous dire, c'était quand même compliqué parce que les gens arrivaient, fallait décharger. Les Allemands en profitaient, hein, forcément. Il n'y a rien qui bouge. On arrive, on bombarde, on envoie les bombes, on mitraille, hein, avec les mitrailleuses directement sur les avions, et on fait des dégâts. En parlant de dégâts, par exemple, 47e régiment d'artillerie divisionnaire, qui lui partait donc du Plessis-Belleville, et qui arrivait, sa destination, c'était Perrois-les-Combris, et le village à côté, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon, peu importe, Perrois-les-Combris, on va dire. C'était la destination. Et donc on passe par Nanteuil. Et puis, à l'entrée de Nanteuil, ils entendent du bruit en l'air. Tiens, il y a un avion allemand, qu'est-ce qu'il va encore nous faire celui-là? Nous, on n'entend plus rien. Et on arrive dans Nanteuil, à l'époque, dans Nanteuil, c'était les chevaux donc, qui tiraient, il y avait 4, 6, voire 8 chevaux qui tiraient des pièces d'artillerie, des plus ou moins grosses, et il y avait des pavés, Donc les pavés, le bruit de la ferraille, des roues qui tapent, on n'entend pas quoi, on n'entend pas les avions arriver. Et tout d'un coup, le massacre. Oui, oui. Le massacre. Les bombes, les mitrailleuses, et on tue, et on tue, et on tue. Et on tue combien ? On tue une dizaine d'hommes et une vingtaine de chevaux. Bon, les chevaux, on s'en fout un peu, mais bon, il y avait un stock de chevaux, mais bon, les hommes, vaut mieux que des chevaux morts que des hommes. Hein, donc, oui. Mais bon, pour vous dire, c'est un truc un petit peu débile, quoi. Hein, comment on peut arriver, bon, moi, je ne me suis jamais fait à la guerre, j'ai étudié ce truc-là, mais bon, comment on peut arriver à tuer des gens de cette manière ? Il n'y a aucune manière de réchapper. Alors en plus, bien sûr, artillerie dit obus, dit obus de la poudre, bah, tout ça, ça prend feu, ça explose et tout. Bon, ouais. Un truc de fou. Un truc de fou. Hein. Donc là, on a parlé un petit peu du 235e régiment d'infanterie et du 47e régiment d'artillerie. Bon, sur Crépy-en-Valois, je vous ai dit, nuit du 10 au 11, un truc terrible. Terrible. C'est pareil, des avions en piqué qui bombardent. Non, mais bon, d'ailleurs, il y a des photos, il y a des gens, il y a des bouquins qui existent, tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas de problème. Et après, bon, si on redescend sur Boulard, bon, je vous ai dit tout à l'heure, le 68e bataillon de chasseurs alpins, lui, c'était la brigade de réserve. Donc, il y en avait deux. Il y avait un bataillon du 235e qui était au bois de Montrol, que vous connaissez bien, et le 68e qui était à Villers-Saint-Genest. Donc ces deux régiments-là, ils étaient là pour éventuellement donner un coup de main s'il y avait besoin. Mais ça n'a pas manqué, hein, puisque le 11 dans la journée, à Boulard, le 260e régiment d'infanterie qui était là, qui avait deux compagnies, s'est fait bousculer par les Allemands. D'accord. Bon, la grosse troupe allemande, la grosse armada n'était pas là, mais bon, ils se sont fait bousculer. Et donc, le général Texier a dit, faut un peu de renfort. Donc, vous envoyez deux sections de combat du 68e pour aller donner un coup de main. Donc, une section de combat, c'est trois groupes de combat, c'est 3 fois 12 hommes, 36 hommes, on va dire. On va dire une quarantaine. Donc, on envoie 80 bonhommes. Mais bon... Donc ils y vont. C'est la section tatu et la section meneur. La section tatu va directement sur la voie ferrée. Ils se débrouillent. Bon, il n'y a pas trop d'escarmouches. Ils se planquent. Bon, ils ne se dévoilent pas trop. Hein, puisque si on sort tout de suite le FM et qu'on tire, bah, on va attirer du monde. Hein, donc, de la représailles. Donc, ils restent un petit peu tranquilles. Et la section meneur donc, rejoint le capitaine Duboulin, qui était du 66e bataillon de chasseurs à pied, hein, qui était le patron de l'opération, de cette contre-attaque. C'était une contre-attaque qui avait été montée pour, en répression pour essayer de repousser les Allemands qui avaient, la veille au soir, pris des... Je ne suis pas trop long, non ?
Pas du tout. Nous, on est passionnés, on vous écoute. Hein.
On est scotchés. Ouais. Hein,
donc, et la section moderne. Vous savez, je vais faire une conférence là, à cet événement, le 30,
en commémoration, oui.
J'espère que je vais avoir la force d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des noms que je prononce et qui me font mal, honnêtement. Ce gamin-là, parce qu'il avait quoi ? Il n'avait même pas 30 ans, hein, et lui, il ne demandait rien à personne. Tiens, il était comme Mélanie. Je veux dire par là qu'il était, il habitait Besançon. Il y avait eu des vieux qui étaient morts, donc le conseil municipal, il manquait de gens. On l'avait élu, ou on l'avait nommé conseiller municipal. Donc il travaillait là, à la Caisse d'épargne de Besançon. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ce gars, en définitive, le 12 juin, pendant la contre-attaque, le capitaine Dumoulin lui dit... Parce que, quand je vous disais qu'il y avait un problème de commandement de 160e régiment d'infanterie, il y en a eu un capitaine. Un capitaine, donc c'est responsable d'une compagnie. Hein, et ce gars-là, on lui dit demain matin, à 5h moins le quart, rendez-vous à Boulard, à tel endroit. Tout le monde est là, sauf lui. Et lui, c'est pas grave. Mais sa compagnie n'est pas là. Donc c'est à la guerre. Chacun a son poste, c'est comme au football. Il y a les avant, il y a les arrières, et puis on essaie de faire quelque chose de cohérent. Ben, lui, il n'était pas là. Donc comment qu'on fait ? Ben, on y va quand même, on va au feu. Le gars, il arrive une heure après. Il faisait déjà jour, ils se sont dégommés. Bah oui, forcément, hein, puisque la nuit, on a quand même l'avantage de ne pas être vu. Bon, on voit peut-être pas bien, mais on n'est pas vu. Et donc, la contre-attaque, bon, elle va à peu près jusqu'au à l'endroit où vous allez, à Collinens à peu près, mais bon, avec toujours un souci, mais sur la droite, il n'y a personne ou pas grand monde, donc on s'étale. Donc on devient plus faible, puisque au lieu d'être sur un kilomètre, on est sur 2 kilomètres. Mmh. Et puis ben voilà, c'est par là que les Allemands sont rentrés. Et à cet endroit-là, il y avait le lieutenant-meneur qui était là avec son équipe. Et donc, dans l'équipe du lieutenant-meneur, il y avait qui ? Ben, il y avait un fameux gars qui s'appelait Redouté. Le père de notre Maurice Redouté, qui, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, oui, qui, j'irais, voulait connaître le visage de Boulard. Pourquoi ? Parce que son père avait failli mourir ici. Mmh. Donc, son père faisait partie... Son père, il était voltigeur. Hein, parce que dans un groupe de combat, qui se compose d'une douzaine, vous avez un groupe et un demi-groupe. Vous avez un groupe de feu. Le groupe de feu, c'est le groupe du fusil. C'est le fusil mitrailleur. Une arme, une belle arme, hein, honnêtement. Une arme maîtresse avec un chargeur sur le dessus qui tire 25 balles, qui est capable de tirer, si on l'approvisionne bien, 200 coups à la minute. Donc ça commence à faire un petit peu du dégât. Et par groupe, vous avez un fusil mitrailleur. Et vous avez 3 groupes pour faire une section. Donc il y a 3 fusils mitrailleurs dans une section. Ils travaillent en triangle, en définitive. Hein, on va dire sur 150 mètres maximum de front. Donc, vous avez par contre, attendez, c'est la maîtresse, mais vous avez également des gens pour la servir. Hein. C'est des servants, en définitive. Vous avez un gars qui fait que charger, que mettre le chargeur dans le FM. Et vous avez donc des pourvoyeurs. Les pourvoyeurs, eux, ils amènent, je dirais, les chargeurs, parce que c'est une consommation très importante. Il faut aller très vite. C'est un petit peu comme en Formule 1. Ils vont vite pour changer les pneus, hein, pour changer les roues, pardon. Mais bon... Et vous avez donc l'autre partie, l'autre demi-groupe en définitive, ce sont les voltigeurs. Hein, les voltigeurs, ce sont les gens qui sont armés d'un lebel, parce qu'à l'époque, c'était encore beaucoup de lebel qui étaient là, hein, et qui sont là pour défendre, on va dire, le fusil mitrailleur et pour, je dirais, attaquer l'ennemi qui est en face. Donc, M. Redouté était voltigeur. Et donc, on a dit que le lieutenant-meneur, à chaque fois que ce nom-là, je le vois, ça me fait drôle. Pourquoi ? Parce qu'il est mort. Hein. Et c'est pas le seul. Hein. Le tireur a été... Pourquoi il est mort ? Le tireur a été blessé. Le tireur qui tirait avec le FM. Donc, qui c'est qui a pris sa place ? C'est Meneur, le lieutenant. C'était pas son boulot. Mais bon, à la guerre, on se demande pas qui va faire quoi. Hein. On essaie de se défendre. Hein. Et donc, vous avez également un pourvoyeur qui est mort, M. Meulet. À savoir que M. Meulet, c'est pareil. Émotion quand on parle de lui. Pourquoi ? Monsieur, il venait des Chalems. Chalems, c'est un petit village. C'était tous plus ou moins des cultivateurs du Jura. Et ce monsieur, il avait un fils qui avait 5 ans et un autre qui avait 1 an et demi. Attendez. C'est un cas similaire à un peu d'un autre monsieur. Ben, y a des trucs, attendez, c'est fou. On a des lettres, hein. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on a des lettres de gens qui ont écrit. Parce que les veuves s'écrivaient. Déjà, ils s'écrivaient pour savoir s'ils avaient des nouvelles de leur mari. Ils n'avaient pas de nouvelles. 6 mois, 8 mois, 10 mois après, les gens ne savaient encore pas où ils étaient leur mari. Est-ce qu'ils étaient morts et enterrés ? Est-ce qu'ils étaient prisonniers en Allemagne ? Rien du tout. Personne ne savait. Oui. Oui, donc je vous disais, dans les noms comme ça, c'est pareil, il y a un monsieur qui s'appelle M. Jacot. Monsieur Jacot, il devait venir à la cérémonie qu'il va y avoir, là. Bon, il va bien, hein, il est toujours en vie. Par contre, il ne viendra pas, son épouse vient de décéder. Du cancer. Mais bon, Monsieur Jacot, lui, il avait 1 an et demi quand son père est mort. Et il avait un frère qui avait 4 mois. Ouais. Et M. Jacot, père, qui est mort à Boulard, il a tenu dans ses bras le petit de 4 mois pendant une demi-journée. Il ne la connaissait pas. Ben non, parce que il était déjà mobilisé, j'irais en 39. Voilà, en juin 40, le gamin avait quelques mois, donc il a eu une permission pour venir au baptême. Voilà, donc, et des cas comme ça, il y en a plein. Et des gens, en définitive, qui sont morts à Boulard, dont les pères sont morts en 14-18. Oui. Hein, par exemple, vous avez la famille Sauteret. Moi, j'ai une lettre de Jacqueline Sauteret, hein, qui est une dame, je dirais, tout à fait attachante, avec qui on a essayé Bon, je la connais par cœur, la lettre, donc c'est pas la peine de chercher mes papiers. Hein, la lettre a dit, il y a une phrase qui est terrible. Terrible. C'est phrase qui dit, madame, vous n'êtes pas la seule à tressaillir au seul nom de Boulard. Vous rendez compte ? Moi, quand j'ai eu ça, honnêtement, j'ai écrit à la personne qui m'a envoyé la lettre, j'ai dit, écoutez, j'ai un petit peu un sentiment de honte, j'y suis pour rien, moi, dans cette guerre-là. Mais quand on dit que le nom de Boulard fait tressaillir, oui, pourquoi ? Parce que son frère, hein, donc Jacqueline Sauteret, donc le matin à 7h30 du matin, il a été blessé au ventre. Donc il ne pouvait plus bouger quasiment, et puis bon, ça tirait de partout. Hein. Et il a appelé sa famille, il a appelé tout le monde, il a appelé de l'aide jusqu'au soir à 17h. Et il est mort là. Et la dame met dans sa lettre, il est mort de la même manière que son père en 14. Dans l'Aisne. Attendez, moi, respect, un chapeau. Bon, moi, je suis très français. Hein, quand j'entends la Marseillaise, je me mets debout. Quand il y a un match de football, moi, je suis comme ça. Hein, mais bon, là, des gens comme ça, moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Si, il y a peut-être mon père.
Les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crèmes du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté, Paris, c'était la douceur aussi. C'était notre tendresse. Paris, il y a des gamins, des artisans, il y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux. On se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien, ma foi. Avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air et léger, graveux ou tendre. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté, Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux. On se retrouvera tous les deux, mon grand Paris.
Vous êtes bien sûr RVM 93.7 et c'est le bouche-oreille qui reçoit aujourd'hui l'association du club de troisième âge de Boulard et la mairie de Boulard. Et nous parlons de commémorations militaires, donc la bataille de Boulard, des commémorations qui se dérouleront le 29 et 30 avril. Mélanie, le choix musical, s'il vous plaît, vous pouvez nous le présenter ?
Oui, bah, c'était Edith Piaf. Je suis une grande fan d'Edith Piaf.
C'est vrai ?
Voilà. Et oui, ça peut surprendre qu'à 24 ans, ça soit ma chanteuse préférée, c'est ça ?
Ah non, pas du tout. Non, respect, moi, parce que je ne connaissais pas cette chanson-là de Edith Piaf, moi, Paris.
C'est vrai ?
Non, j'ai découvert. Jean-Louis, tu connaissais peut-être
Non, pas spécialement.
Parce qu'on connaît plein de chansons d'Edith Piaf, mais celle-là ne me parlait pas, quoi. Voilà.
Non.
Eh bien, oui, c'est parce qu'elle apparaît dans le film La Rafle. Alors, elle a été faite après la guerre, hein, mais je trouve que ça fait bien l'ambiance... de Paris à cette période.
Très bien. Alors, Mélanie, vous vouliez faire un point quand même sur votre club de...
Histoire.
Histoire, voilà.
Oui. Donc, le club Histoire, donc ça a été créé justement pour cette commémoration. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les adultes comme les enfants peuvent y participer. Donc, au tout début, on se regroupait tous les mois, une fois par mois. Et là, c'est vrai qu'avec l'approche de l'événement, on se rejoint une fois tous les 15 jours. Et ce qui est vraiment bien avec le club Histoire, c'est que déjà avec les enfants, ça permet de leur expliquer c'est quoi la Seconde Guerre mondiale, leur permettre aussi d'exprimer ils peuvent à travers le dessin, donc c'est par le dessin qu'on leur fait exprimer, ils peuvent mettre en image ce qu'ils imaginent de la guerre. Parce que c'est très flou pour eux. À cet âge-là, quand on a 6 ans, on ne regarde pas des films de guerre. Donc c'est compliqué de pouvoir imaginer. Et au final, quand ils nous dessinent, en fait, ça représente vachement les combats. Ça qui est très intéressant. Ouais. Et pour les adultes, le club Histoire, il est quand même composé majoritairement de personnes à la retraite. Voilà. Mmh. Et ça leur permet, je pense, de pouvoir avoir un moment d'échange, de sortir de leur quotidien et de faire autre chose.
Et puis ça fait une transmission entre les jeunes et les anciens aussi, voilà. Mmh.
C'est ça. Puis c'est toujours très convivial. À la fin, il y a un petit goûter. Tout le monde est content.
Voilà, comme ça, on a bien précisé pourquoi est né ce club et comment il vit. Hein.
Voilà.
Alors, moi, j'aimerais qu'on rentre dans le programme.
Oui.
Parce que là, Francis nous a fait une belle...
Voilà. Et le club Histoire, c'est vrai que ça doit passionner beaucoup de monde quand on a un orateur tel que Francis, quoi.
Ah oui, parce on est scotché, que... là. Il n'y a pas eu un mot, hein, tranquille. Hein.
Franchement...
On a bu les paroles, voilà.
Oui, non, mais il m'écoute, donc... il m'écoute pas vraiment, en définitive. À chaque fois, on ne reparle pas de ça, on parle plutôt de l'organisation, de ce qu'on veut faire. Et je redis encore une nouvelle fois à tous les auditeurs, mais le 29 et le 30 avril, il n'y a qu'une seule destination à avoir dans vos têtes, c'est Boulard. Hein. Ah, ça, sans problème. Hein.
Et ben justement.
Mélanie va vous expliquer
on
tout
va
ça.
Présenter le programme, alors. Allez, une partie Mélanie et puis une partie Stéphanie. On partage les tâches.
Oui. Comme on est en train de parler du club Histoire, je vais faire la transition avec la conférence que l'on va mener avec les enfants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus petits, ils ont plutôt fait des créations artistiques. Ils ont représenté la guerre. Et les enfants un petit peu plus grands, donc les plus petits des plus grands, on va dire, ils ont 10 ans. Et donc, eux, ils ont travaillé donc avec Maëlle, qui est ma sœur. Ils ont travaillé sur la place des enfants et des adolescents pendant la guerre. Donc, le 29 avril, à 14h, ils vont faire une conférence, malgré leur jeune âge, pour parler de la place des enfants pendant la guerre. Alors, pas à Boulard, évidemment, mais de façon générale. Et pareil, donc ça sera la première demi-heure qui leur sera accordée. Et moi, pour la deuxième partie, je mettrai en avant la place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui. Alors, ça se passerait où, dans Boulard ?
Alors, les conférences, il a fallu choisir un endroit qui soit à l'abri, qui soit assez grand. Donc, le seul lieu que l'on avait, c'était l'église.
Et ben voilà.
Donc, les conférences se feront dans l'église. C'est bien, ça résonne. Pas besoin de micro.
Voilà. Et donc, j'ai vu qu'avant, il y avait une visite de Boulard en guerre, hein, c'est
oui.
ça, hein, à partir de 9h du matin, hein. Donc ça commence très tôt alors. Hein.
Oui, tout à fait.
Et après, vous avez une messe à 19h.
C'est ça.
Oui, une messe avec un aumônier militaire, ça c'est important. Hein, c'est le père Gilles L'Herbier. Donc, parce qu'on a essayé de faire venir, on a des idées de grandeur à Boulard. On a essayé de faire venir l'évêque aux armées, Monseigneur Antoine de Romanet. Bon, il ne peut pas parce que ce jour-là, malheureusement, il y a d'autres commémorations qui sont même régulières, parce que tous les ans, il y a Cameroun, c'est la fête des légionnaires, hein, donc tout le monde se dirige vers le sud, et en même temps, il faut savoir que ce jour, le 30, c'est la fête des déportés, c'est la journée de la déportation. Donc ça nous fait pas concurrence, mais je dirais, ça nous prive un petit peu de certaines personnes qui ne seront pas forcément là. Mais bon, il y en a d'autres qui remplacent, qui sont là. Donc tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. On a, comme je disais tout à l'heure, on aura même un général qui viendra, lui, pour, parler de ce qui s'est passé à Boulard et mettre en avant ces 33 victimes. Mais je redonne la parole à Mélanie.
Oui, j'ai noté aussi qu'à 17h, donc entre la messe et votre conférence, il y aura Régis Moreau qui intervient.
C'est ça.
Donc Régis Moreau, c'est l'histoire et archéologie de Nantes-et-Lodouin, c'est
oui.
ça. Et il va parler de quoi, Régis Moreau, alors ?
Alors c'est une conférence à laquelle j'ai assisté déjà. Et quand je suis sorti de cette conférence-là, je me suis dit, mais lui, il va venir à Boulard. Hein. C'est sûr. Et il a accepté, monsieur Moreau. Je le remercie là devant tous les auditeurs. Il y a une autre personne également, je remercie, c'est monsieur Thierry Abran, qui le même jour a dit, mais moi aussi j'y vais, il n'y a pas de problème. Donc si la liberté venait du ciel, c'est Régis Moreau, c'est quoi ? En 44-45, il y avait des terrains d'aviation provisoires, en définitive. Provisoires, c'était pas provisoires, clandestins, on va dire plutôt. Et donc on faisait parachuter des armes, des munitions, et on récupérait également de temps en temps des pilotes qui avaient été abattus par la DCA. Et à Boulard, on a eu le cas, puisque à Boulard, on a eu un B-57, un avion américain qui s'est fait taper par la DCA. Les gens sont sautés au parachute. Il y en a deux qui sont arrivés à Boulard, un autre un peu plus loin, hein, le lieutenant Kelly. Hein, et on a retrouvé donc chez une de nos habitantes de Boulard, chez Madame Herbin, Bernadette, on a retrouvé, elle nous a donné donc une lettre de l'ambassade des États-Unis du chargé militaire de 1946 ou 47 qui remerciait le village de Boulard et Monsieur Moutonnet d'avoir prêté assistance au peuple américain et d'avoir aidé à sauver en définitive ces parachutistes parce qu'on les a cachés, on les a nourris. Hein, pendant pas très longtemps. Et donc, si la liberté venait du ciel, c'est la manière, les chemins qui existaient, les réseaux qui existaient pour ramener ces pilotes, ces copilotes et ces mécaniciens en Angleterre.
D'accord. Alors, la suite, on passe à dimanche. On précise quand même qu'il y a une exposition qui sera surtout le week-end. Hein.
Oui.
Donc, il y a plusieurs même.
Qui sera complété. D'ailleurs, on a essayé aussi de travailler en collaboration avec les écoles. Donc toutes les écoles du RPI, peut-être que la présidente du CIVOS veut nous en parler.
Oui, alors on a fait appel aux écoles donc, de notre RPI pour savoir s'ils souhaitaient participer.
Ça représente quelle commune alors ? Boulard ?
Boulard, Étavigny, Rouvres, Neufchelles et Varinfroid.
Ah oui, 5 communes, d'accord.
Oui. Et on leur a demandé s'ils souhaitaient participer à la commémoration. Et au final, toutes les écoles ont participé et ont fabriqué quelque chose pour la commémoration. Et on les remercie d'ailleurs au passage. Et donc tout ça sera exposé dans la salle des fêtes de Boulard. Comme ça, les parents pourront venir admirer ce que leurs enfants ont fait pour cette journée de commémoration.
Très bien. Alors, on rattaque le dimanche 30 avril ?
Oui.
Oui ? Une petite précision ?
Vu qu'on va parler du 30 avril, j'en profite pour faire un petit appel, car nous recherchons toujours activement des enfants pour déposer soit un galet, soit une bougie allumée par la flamme du relais sacré.
Donc, il y aura lieu donc, le dimanche.
Donc, s'il y a des enfants qui nous écoutent et qui sont volontaires pour participer à cette expérience qui sera certainement unique... Je les encourage à se rapprocher de nous. Pour
d'autres communes aussi, alors.
Voilà, pas que de Boulard, peu importe d'où vous venez.
D'accord.
Vous êtes les bienvenus.
Bon, écoutez.
Oui, parce qu'à Boulard, il n'y a pas assez d'enfants.
On a pas 66 enfants, donc
malheureusement.
Oui. Alors, on reprend le programme. On prend le 30, on explique ce qui va se passer.
Donc il y aura l'inauguration de la stèle et donc c'est à ce moment-là aussi où on rejoint la recherche d'enfants puisque c'est à ce moment-là en fait où il y aura une petite participation des enfants avec où ils vont déposer soit un petit galet, soit une petite bougie en l'honneur de ces soldats.
Des galets d'ailleurs qui ont été réalisés par les enfants du Club Histoire. Donc ils ont fait un petit drapeau français en forme de cœur et à l'arrière du galet ils ont déposé le nom... de chaque soldat.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez original qu'ils aient fait ça parce qu'on ne leur a pas donné de directives précises pour faire la forme du drapeau et c'est vrai qu'ils ont fait des petits cœurs. Voilà, c'est très symbolique hein, pour ces enfants-là d'avoir fait ça. On les remercie d'ailleurs d'avoir travaillé.
Oui. Donc après, il y a un discours, c'est ça, par un officier supérieur en hommage aux 33 victimes, c'est ça?
Oui,
hein,
oui. Paul Moreau.
Très bien. Après inauguration de la place du chef de bataillon, Henri Lefebvre. Donc, cette inauguration, ça sera à quel endroit, de Boulard?
Alors, comment expliquer ça pour que ce soit facile?
des places à Boulard, il n'y en a pas des milliers.
Donc, on ne peut pas se tromper.
Non, on ne peut pas se tromper.
Près de l'église. Près de l'église.
D'accord.
On prend la rue des Fontaines, on la descend ou la monte comme on veut, selon l'endroit où on va. Alors, je voudrais préciser quand même quelque chose, parce qu'on commence le matin, de bonne heure également le dimanche, parce qu'on donne rendez-vous aux gens de l'armée, aux porte-drapeaux, aux porte-fanions, à la musique des chasseurs de Vincennes, hein, c'est quand même quelque chose, hein, une vingtaine de musiciens. On leur donne rendez-vous à 9h devant la salle des fêtes. On va à pied jusqu'à la fontaine du Caet, la fontaine de Caet qui se trouve à l'entrée du village quand on vient d'Antilly. Pourquoi on vient là? C'est très symbolique. Il y avait 33 morts, donc dans deux endroits en définitive du village. Dans le bois de Saint-Martin, qui va vers la voie ferrée, vers la halte en définitive là, il y avait énormément de gens qui sont décédés. Donc, comment ils ont fait les gens? Parce qu'il n'y avait plus que des vieux quand ils sont venus. Les jeunes étaient ou à la guerre ou étaient prisonniers. Donc, les vieux, il restait deux personnes. Il y avait le père Charlemagne, c'était son prénom, Charlemagne, et il y avait le père Vincent. Ces deux gars-là, donc, avaient une brouette. Quand les gosses trouvaient un cadavre, par exemple, dans le cimetière, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais bon, quand ils trouvaient un cadavre, ils le signalaient à la mairie, ils envoyaient les deux petits vieux, et on creusait un trou. Donc, le premier trou qu'ils ont creusé, c'est pas très loin, en définitive, de l'endroit où ils ont trouvé le cadavre. Hein, donc, ils l'enroulaient simplement dans une toile de tente ou dans une couverture, creuser un trou, on récupérait les papiers, on symbolisait bien la tombe pour qu'on puisse repérer qui était enterré là, en fonction des papiers qu'on avait. Et puis voilà. Donc, et les gens sont restés là pendant quand même longtemps, hein, dans ce cimetière provisoire. Donc on part de là, c'est très symbolique. Mmh. On remonte la rue et on va jusqu'à la place qu'on va appeler place du chef de bataillon Lefebvre.
Voilà. Et donc cette fanfare intervient donc le matin de bonne heure et elle reprend aussi à 12h20, c'est ça, hein, je vois qu'il y a de la musique, hein.
Ben,
c'est
que,
c'est avec que vous finissez la matinée avec la fanfare, quoi. Vous la commencez et vous la finissez, voilà.
Pendant environ deux petites heures, hein, c'est tout un cérémonial. Hein.
Oui.
Je disais, ça n'a pas été écrit par moi, ça a été écrit par les commissaires de la Flamme, que je remercie beaucoup, David Minois, François Carrie et d'autres. Donc tout ça, c'est réglé. Et donc, il y a des gardes à vous, des machins. C'est très militaire, là. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que les enfants, je reviens là-dessus, mais il faut qu'ils viennent. La chance qu'ils peuvent avoir ce jour-là de participer à un événement de ce style-là. Mais ça, toute leur vie, ça va rester gravé dans leur mémoire, forcément. Hein, Madame Morel, donc là, parce que le relais sacré, c'est quoi, en définitive? Le soir à 18h, la veille, Madame Morel, le relais sacré, va à l'Arc de Triomphe, prend ce qu'il faut pour rallumer la flamme, hein, le combustible et tout, prend le flambeau, tout à fait officiel de l'Arc de Triomphe, il y en a plusieurs, mais on en prend un. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On allume le flambeau avec la flamme de l'Arc de Triomphe et on va allumer 33 petites bougies, d'accord, qui vont symboliser les 33 personnes décédées à Boulard, par 33 enfants, et on les emmène, je dirais, à la stèle, parce que la stèle, il y a une stèle, on a construit un monument. Hein, c'est quand même ça, c'est pareil. Immédiatement, le conseil municipal a dit, mais nous, on fait un monument. 33 morts. Attendez, faut pas. Mmh. Hein.
Alors, on va s'épêcher, parce qu'il nous reste peu de temps. Hein, parce qu'avec Francis, on pourrait faire 2 heures, voire 3 heures d'émission.
Non, hein. Oh, mais si vous voulez, je vous quitte.
Donc, ils reprennent la fanfare à 14h. On fait une petite pause. Vous avez prévu une restauration, quelque chose?
Oui, oui. Surtout le week-end, il y aura de quoi se restaurer, oui, boire et manger.
Pour rester sur place, voilà. Et donc après, vous recommencez qu'une conférence, donc notamment Francis qui fait une conférence sur la bataille de Boulard, c'est ça?
Oui, la bataille de Boulard à 15h. Bon, en définitive, je m'aperçois que je n'aurai pas assez de temps, parce que normalement, je dois finir à 16h15. Parce qu'il y a Thierry Abran qui sera derrière.
À 16h15, c'est Monsieur Abran qui reprend pour parler de la ligne Chauvineau.
Voilà.
Donc c'est son bébé, quoi, la ligne Chauvineau,
bah,
monsieur,
oui,
Abran.
Voilà, voilà.
Ah,
donc, on ne voudrait pas lui...
Professeur d'histoire, voilà, au collège de Marcel Pagnol de Baie. Il fait partie de l'AEC, c'est ça, hein. Il
c'est
a
ça.
Mis en place, justement, une... Bon, si vous avez écouté RVM il y a très peu de temps, ils sont passés, où les élèves de 3e, 4e, je crois,
3e.
C'est ça 3e, participent chaque année à restaurer des blocos sur la ligne Chauvineau. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut rajouter là? On a comment les gens peuvent se renseigner s'ils veulent avoir un peu plus d'infos que ce qu'on a donné aujourd'hui?
Eh bien, on a un groupe Facebook.
D'accord.
La bataille de Boulard.
Oui, ah ben ça passe.
Voilà.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit du tout. Et là, on va se faire des ennemis là.
Aïe, attention.
Ah oui, non, attendez.
Il y a encore un peu de temps. Allez-y.
Allez, il faut qu'on se dépêche. Qu'on se dépêche. On va avoir à Boulard quand même deux camps. On va avoir un camp français et un camp américain. C'est quoi ça? On a par exemple le camp français, il y a Régis Duvert, qui est bien connu, Vinci Manœuvre, qui organise les journées de la Chine, qui auront lieu également cette année au mois de juin, comme il fait tous les ans, et Patrick Loetz, donc ils nous mettent une dizaine, grosso modo, de véhicules militaires, dont des véhicules militaires qui étaient à Boulard. Les chenillettes qui approvisionnaient en obus les canons, il y en aura. Hein. Et on aura également un camp américain. Donc un camp américain, ce qui est bien dans ce camp-là, c'est que bon, les matériels, les véhicules ne sont pas trop impressionnants. C'est beaucoup des jeeps, même qui sont en parfait état. Mais vous avez également donc, des, comment on pourrait dire, des animations. Par exemple, il y a l'animation infirmerie. Donc il y a la tente, infirmerie, il y a l'ambulance, il y a tout ça. Il y a des infirmières déguisées, des femmes qui se déguisent en infirmières. Non, c'est superbe. Moi, j'ai vu ça au camp de Roy. Hein, quand ils ont fait une exposition l'année dernière, en 2022, ça devait être au 8 mai. Voilà, et donc c'est vraiment magnifique. Donc là, il y en a pour tous les goûts. Il y a également une autre exposition dans la salle des fêtes. Mmh. C'est quoi? Vous qui êtes de Baie, cher ami,
oui.
La gare de Baie. Mmh. La gare de Baie qui est faite par Michel de Rode. C'est bien ce nom-là, je crois,
De Roche,
oui, Michel, oui. De Roche. D'ailleurs, c'est pas Michel.
Non, c'est pas Michel.
Je mélange tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est notre ami, il vient...
C'est Joël.
8 mètres de long, 2 mètres de large, c'est un truc de fou. L'autre jour, je suis allé le voir chez lui. Mais chez lui, c'est un palace. Hein. C'est le musée de la SNCF, on est
fini. Ah oui, il reconstitue.
Donc les trains, font le bruit, ils font également la vapeur, ils font les sifflements, ils font tout, et ils tirent des wagons sur les wagons et des chars. Et il y a une dizaine de trains qui bougent là-dedans. Reconstitution également de la ligne Chevineau, le fossé qu'il y a entre Baie et McLean, donc c'est quelque chose de splendide. Ouais. Et on aura également un petit coin musée dédié, on va faire des photos, du moins on a les photos, des cadres, on va faire un petit coin. Parce que le commandant Lefebvre, son petit-fils, François Carrier, a fait quand même don à la commune de Boulard de toutes les médailles militaires de son grand-père. 6 croix de guerre, 14-18, parce qu'il était blessé en 14-18, il a fait 40, mais il était blessé également en 14-18, 6 croix de guerre, la Légion d'honneur. Il faut quand même savoir que c'est un des rares commandants qu'a une citation au nom de l'armée. De l'armée, parce que les citations, on l'a au nom de la compagnie, on peut l'avoir au nom du régiment, on peut l'avoir au nom de la division, du corps d'armée. Et lui, c'est l'armée, pour service rendu à la France.
C'est pas n'importe quoi. Alors.
Non, surtout qu'il a été fait prisonnier le 12 juin 1940 et qu'il a été libéré fin mai 1945.
Eh ben, je crois qu'avec Francis, on pourrait refaire l'émission juste derrière, hein, oui. Y a pas de souci. Hein. Merci d'être venu nous voir dans les studios de RVM. Donc, je rappelle, commémoration militaire à la bataille de Boulard, le 29 et 30 avril 2023. Donc, venez à Boulard, venez découvrir ces commémorations, venez découvrir l'histoire de Boulard et ce qui s'y est passé. Hein. Donc, on rappelle, 33 morts en 1940. Hein, voilà. Je vais m'arrêter là. Oui, Mélanie.
J'aimerais juste quand même qu'on remercie nos sponsors.
C'est ce que j'allais dire aussi.
Allez-y, nommez-les.
Voilà. Donc, bah, y a la mairie de Boulard, tout d'abord, qui va octroyer une subvention au club du 3e âge. On a aussi la mairie d'Antilly, qu'on peut remercier aussi, qui va faire un don. On a l'entreprise JP2D, la pharmacie de Baie, l'entreprise Riva Paysage, Aquilon, l'association d'histoire aussi de Nanteuil, Evolu Game, la CCPV, et on attend aussi les réponses du conseil départemental.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour, les auditeurs. Donc, rediffusion de cette émission donc le dimanche à partir de 16h, le mardi à partir de 10h, et après en podcast. Eh bien, bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.